France Inter.
France Inter. Dorothée Barba.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le 62 est à l'honneur cette semaine, département du Pas-de-Calais. Le jeu des 1000 euros que vous retrouvez dans un quart d'heure pour le spécial jeune est au Touquet. Et dans les carnets de campagne, je passe un coup de fil à Montreuil-sur-Mer aujourd'hui pour parler de la Maison des Faiseurs. C'est un café associatif qui propose plein d'activités très variées avec l'idée essentielle d'impliquer les habitants et les habitantes dans l'animation de leur territoire. Mais avant cela, j'ai une formation à vous suggérer, formation essentielle et qui concerne tout le monde. Soyez les bienvenus.
Carnet de campagne, le journal des solutions.
Si je vous parle des gestes qui sauvent, vous pensez sans doute à la fameuse PLS, la position latérale de sécurité, à pratiquer quand quelqu'un est inconscient mais respire normalement. Mais connaissez-vous les gestes de premier secours en santé mentale? Comment réagir? Quelle attitude adopter quand on est face à quelqu'un en détresse psychique? Eh bien, c'est tout l'intérêt de la formation premier secours en santé mentale. Bonjour Floriane Dufour.
Bonjour.
Vous avez été infirmière en psychiatrie pendant 10 ans et vous êtes aujourd'hui formatrice dans le Pas-de-Calais pour l'association PSSM France, association créée en 2018, inspirée d'une initiative australienne qui existe en Australie depuis les années 2000. Quel est le principe de ces formations?
Alors, le principe, c'est d'imaginer qu'on transfère la formation des premiers secours physiques, mais sur une formation pour les troubles psychiques. Donc, c'est sur le même principe. Comment faire pour aider une personne qui va mal? Donc, il y a un plan d'action qui est défini, au même titre que dans les premiers secours physiques, on retient très bien le protéger, alerter, secourir. Et bien là aussi, on a un plan d'action qui s'appelle aérer et qui permet de retenir à chaque fois une méthode pour aborder quelqu'un et apprendre à l'aider quand elle va mal.
Donc, aérer, c'est un acronyme pour approcher la personne, l'écouter, la réconforter, l'encourager, la renseigner.
Exactement. Alors, les termes sont à chaque fois un petit peu plus développés, mais oui, c'est ça.
Est-ce que vous avez des exemples à nous donner de situations dans lesquelles il est utile d'avoir suivi cette formation ?
Alors, presque au quotidien, j'ai envie de dire, puisqu'on considère que les troubles psychiques concernent une personne sur quatre. Donc, ça fait du monde. Donc, ça pourrait être un collègue, un ami, un membre de sa famille. Comment approcher cette personne en fonction de qui c'est pour pouvoir l'aider et l'orienter à aller vers le soin? Car c'est tout là l'objectif des premiers secours en santé mentale, c'est de non pas de poser un diagnostic, mais de repérer les premiers signes d'un trouble psychique et de savoir orienter la personne vers les soins.
Ce sont deux journées assez intenses, j'imagine.
Elles sont en effet très denses, très intenses. Le timing est assez serré. Elles sont aussi chargées émotionnellement, puisque forcément, ça peut faire écho à chacun d'entre nous, à nos parcours de vie. Donc, en effet, c'est deux jours très intenses.
Vous prenez des situations concrètes, des mises en scène pour former vos stagiaires?
Oui, on travaille de plusieurs manières. On peut travailler sur des situations, des cas qui sont rédigés. Et donc, on apprend à communiquer comme si la personne était en face de nous. Il y a également des vidéos qui sont visionnées, alors soit de personnes concernées par les troubles qui témoignent de leur rétablissement, soit des mises en scène effectuées par PSSM pour présenter le déroulé du plan d'action aéré et voir concrètement comment ça fonctionne. Et puis après, on fait également des petits ateliers, des mises en situation sur, par exemple, comment aborder quelqu'un qui exprimerait des intentions suicidaires, comment lui parler, quoi lui répondre. Donc ça, on le met vraiment en scène. Donc ça, c'est aussi un moment chargé en émotions. Et puis, le dernier point, c'est sur les troubles psychotiques et la personne qui vivrait des hallucinations. Et donc, on fait une simulation d'un vécu d'hallucination pendant quelques minutes pour se rendre compte de ce que ça représente.
Ce qui est essentiel, c'est toujours de renvoyer la personne concernée vers un professionnel de la santé mentale. Est-ce que c'est un discours qui est accepté en général quand c'est uniquement, je ne sais pas, un collègue ou quelqu'un qu'on croise dans la rue qui va vous dire « vous devriez aller consulter » ? Est-ce que c'est bien perçu ?
Alors, on réfléchit aussi justement à l'abord, à comment on aborde quelqu'un, enfin, à nouveau, en fonction du contexte, si on connaît ou pas la personne. Et puis, moi j'invite toujours les stagiaires, les futurs secouristes à se présenter comme tels, en fait, à légitimer leur fonction en disant « je suis secouriste en santé mentale, j'ai été formée ». Et donc, c'est mieux accueilli quand c'est quelqu'un qui connaît quelque chose sur le sujet.
Quel est le profil des stagiaires, en général ?
Alors, c'est vraiment une formation qui est citoyenne, qui est à destination de tout public à partir du moment où on est majeur. Donc, ça peut être des profils extrêmement variés. D'ailleurs, une des choses sur lesquelles PSSM France insiste, c'est de ne pas faire attention à la fonction, à l'emploi qu'on occupe, parce que qu'importe notre fonction et notre emploi, on peut devenir un secouriste.
Vous avez autant de femmes que d'hommes dans vos formations ?
Et non, c'est encore majoritairement féminin. Peut-être c'est encore trop tabou pour les hommes. Est-ce que c'est encore aussi plutôt quand même si on ne fait pas attention aux emplois, des personnes qui viennent du milieu du soin et donc ça reste quand même du médico-social pour le moment. Donc peut-être aussi pour ça, parce que dans ces branches-là, il y a plus de femmes.
La formation premier secours en santé mentale coûte 250 euros, sauf erreur. Est-ce que certains employeurs la financent pour leur personnel ?
Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est ce que moi, j'invite à faire quand quelqu'un est intéressé, à aussi questionner au sein de l'entreprise, non seulement pour la prise en charge, mais pour aussi qu'il y ait plus de représentants, plus de secouristes au sein d'une même entreprise. Donc oui, j'invite en effet toutes les entreprises à s'intéresser à la question.
On parle énormément ces jours-ci de la santé mentale des jeunes. Est-ce que vous diriez qu'on a énormément de progrès à faire en France en la matière ?
Oui, vous l'avez dit, PSSM, c'est à la base australien et c'est depuis les années 2000 que ça existe chez eux. Donc oui, on peut considérer qu'on a une vingtaine d'années de retard.
Est-ce que vous constatez que ça prend, si j'ose dire, les formations citoyennes ou il manque encore de la mobilisation du grand public pour ces formations ?
En effet, je pense qu'il manque encore ou de la mobilisation ou de l'intérêt ou de la communication autour de ça. Et puis, je pense aussi que le frein et le coût de la formation, 250 euros. Alors, si on compare à d'autres formations, on pourrait se dire que ça n'est pas grand-chose, mais c'est quand même un budget quand on doit le financer soi-même. Et comme pour l'instant, elle n'est pas encore éligible CPF, je pense que c'est un des plus gros freins. Mais l'association travaille, PSSM travaille dessus.
Vous proposez aussi un module de formation jeunesse. Quel est le principe ?
Alors, c'est un module, en effet, pour les jeunes. En fait, le module standard est à destination des adultes qui voudraient intervenir auprès d'adultes qui vont mal. Et le module jeune, c'est à destination d'adultes qui voudraient intervenir auprès de jeunes qui vont mal. Donc, par exemple, on forme les centres de loisirs, tout le personnel d'animation. Ça peut être dans les piscines, ça peut être dans les cinémas, tout public qui peut être face à un public jeune, sur le même principe que le module standard, hormis le fait qu'on va développer les troubles du comportement alimentaire, qui ne sont pas évoqués dans le module standard, et les automutilations non suicidaires.
Vous êtes en contact avec l'Éducation nationale pour ce volet ?
Pour l'instant, les portes sont assez fermées aux formateurs indépendants. Donc je sais que PSSM travaille avec eux pour voir ce qu'il est possible de faire.
Association PSSM, premier secours en santé mentale, partout en France donc, et dans le Pas-de-Calais pour ce qui vous concerne. Merci beaucoup Floriane Dufour.
Merci à vous.
Et bonne journée, au revoir.
Au revoir.
France Inter, carnet de campagne.
Voici un endroit où l'on peut prendre des cours d'échecs, jouer à la belote, s'égosiller dans un karaoké, assister à un concert, danser sur de la musique électro, assister à une conférence. Autant vous dire que l'offre est très large et elle peut encore s'élargir si vous avez vous-même quelque chose à proposer. La Maison des Faiseurs, c'est le nom de ce tiers-lieu à Montreuil-sur-Mer, café participatif et solidaire installé près de la gare dans un ancien local SNCF. Bonjour Sébastien Biraud.
Bonjour.
Vous êtes l'un des créateurs de la Maison des Faiseurs. Elle existe depuis un an, mais le projet est plus ancien, je crois. Le lancement a-t-il été difficile ?
Oui, on existe depuis maintenant 7 ans. Souvent, on parle de résilience ou de robustesse sociale de notre côté. On a fait beaucoup de choses et on a démarré avec plusieurs lieux. Notamment, on a démarré dans un petit café où on faisait des jeux de société. Ensuite, on a décidé d'acheter une caravane, d'aller de festival en festival, d'aller dans des lieux un peu alternatifs, des lieux qui nous parlent en termes de valeurs, de solidarité, de vivre ensemble, où on a fait des jeux de société, un petit peu à manger, on s'est fait un peu connaître. Ensuite, il y a eu le Covid, on a continué à garder la communauté un peu en vie en faisant des visios, de théâtre, de création, pour continuer à maintenir le projet. On s'est retrouvé dans un petit village, il y a une copine qui nous a acheté un café, qui a tenté d'acheter un café. Malheureusement, il y avait beaucoup de travaux et notamment des problèmes de toiture. On a cherché un autre local, on s'est retrouvé à Grosfillet, au bord de mer, à côté de Berck. Et pendant 3 ans, on a créé la communauté, le projet. On s'est installé dans notre café associatif, c'était un ancien restaurant. Ça ressemblait un petit peu aux estaminets d'antan. Voilà, et au bout de 3 ans, on avait un bail dérogatoire, ce qu'on appelle un bail précaire. Et on a retrouvé un local à Montreuil et on a inauguré en avril 2024.
Eh ben, c'est une sacrée aventure, hein. Mais ça n'est que le début,
oui.
Donc.
Oui, ce n'est que le début et ce qui fait la force de notre lieu, ce sont les habitants, ce sont les gens. C'est cette force collective qui permet d'exister et aussi cette envie de faire exister notre projet.
Alors j'ai cité quelques-unes des activités proposées, hein, la belote, le karaoké, les conférences. Est-ce que vous avez d'autres exemples ?
Oui, on fait... en fait, tout part des habitants. Donc l'idée de la maison des faiseurs, c'est les faiseurs. Donc on fait, on agit. On est acteur sur notre territoire de l'animation de la vie locale et il y a des habitants qui nous proposent des choses. Donc on peut très bien avoir Édouard qui nous propose une initiation aux échecs. On a aussi des jeunes d'un collectif qui s'appelle le collectif Omatech sur Montreuil qui vont nous proposer des soirées free party parce que la techno, souvent, c'est un art, une culture musicale qui se fait un peu à l'extérieur. Nous, on a envie d'accueillir cette culture musicale aussi parce qu'on est aussi dans la diversité. Et on a aussi nos bénévoles et nos habitants qui peuvent tenir le point restauration, le point bar. On a des ateliers parents-enfants qui sont animés par Perrine, qui est une habitante du territoire. On fait de l'éducation populaire, du développement du pouvoir d'agir et de l'économie sociale et solidaire.
Comment est financée la Maison des Faiseurs ?
Alors ça peut être par les dons, ça peut être par la restauration, ça peut être aussi par les subventions publiques. Des fois, on fait aussi des choses à l'extérieur et du coup, on a des prestations. Ça peut être des prestations théâtre, des prestations d'accompagnement de projets pour lancer des dynamiques de tiers-lieux, le côté un peu incubateur. Et on peut aussi avoir, par exemple, on nous demande dans des structures parfois de faire à manger, d'animer une fête. Enfin voilà, pour exister, il faut une hybridation de ressources. Sinon, à un moment, avec les charges de fonctionnement, le lieu peut s'éteindre et si le lieu s'éteint, c'est tout un projet et surtout des gens. Voilà. Des gens qui sont en mouvement, qui reprennent confiance, qui sortent de l'isolement et qui s'émancipent aussi. Et donc, c'est pour ça qu'on se bat et on réfléchit à plein de moyens de faire vivre notre lieu économiquement.
Justement, quel effet ce lieu a-t-il sur les gens du coin, Sébastien ? Vous avez des exemples à me raconter ?
Oui, parce que c'est important aussi de parler des gens, en fait, parce que du coup, c'est quand même l'origine du projet. Mais on a Agnès qui vient tous les week-ends, qui est une retraitée, qui est un peu isolée, qui nous dit c'est comme une famille ici, c'est ma deuxième famille, et c'est pour ça que je m'implique. Et du coup, on voit son sourire, son envie d'être avec les autres et de développer ses talents, quoi. On a aussi des gens comme Marie qui sont en difficulté aussi psychique et puis qui peuvent parfois aussi se retrouver ici dans un lieu où on l'écoute, dans un lieu où elle peut prendre sa place. Et ce qui est intéressant par rapport à un café lambda, c'est que les gens, quand ils rentrent dans ce café associatif, ils ne passent pas inaperçus. C'est-à-dire qu'on porte de l'attention, on tente le collectif dans l'accueil inconditionnel. Et du coup, ça a des effets positifs quand les gens se sentent accueillis et osent, et même se disent « Ah bah en fait, j'étais capable de... » Juste, on fait confiance. Voilà.
La Maison des Faiseurs, c'est à Montreuil-sur-Mer. Merci beaucoup Sébastien Biraud.
Merci à vous.
Bonne journée, à bientôt.
Au revoir.
Un grand merci à Sophie Hoffmann, attachée de production des carnets de campagne, ainsi qu'à Laurent Baudouin, aujourd'hui à la technique. Merci aussi à Lila Rapoport, qui termine cette semaine son stage dans l'émission et qui fut un membre précieux de cette équipe. Les carnets de campagne seront fidèles au poste à la rentrée et on s'intéressera notamment au département de l'Ain, du côté de Bourg-en-Bresse. Vos messages sont les bienvenus pour signaler d'ores et déjà des gens géniaux dans le département 01.